Europe 1, 14h-15h, Clap. Mathieu Charrier.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Je suis très heureux de vous retrouver après avoir laissé la présentation quelques semaines à Margot Barallon qui a parfaitement pris le relais. Et pour mon retour, justement, on va chanter.
I'm a fool to want you. I'm a fool to want you.
À l'occasion de la sortie en DVD du biopic Billie Holiday, et alors que plusieurs biopics consacrés à Lady Day sont attendus dans les salles dès leur réouverture, on va revenir sur tous ces biopics musicaux qui se multiplient, que ce soit des biopics consacrés au classique avec le pianiste ou Amadeus, à la pop avec Elton John et son Rocketman, Queen et son Bohemian Rhapsody, ou Stardust consacré à David Bowie, ou encore à la soul, je pense à Ray par exemple. Pourquoi ces biopics plaisent-ils autant au public et si peu à la presse? Et surtout, pourquoi ils se multiplient? Je vous raconte tout dans un instant. 14h30, vous avez rendez-vous avec Gérard Lanvin qui répondra à notre questionnaire « Les films de ma vie ». Alors par exemple, dans quel film aimerait-il vivre?
Non mais franchement, qu'est-ce que tu lui trouves, hein? Il est beau, c'est ça? Moi aussi, je suis beau dans mon genre. Et puis la beauté, hein, c'est toi qui le dis.
Ça ne veut rien dire.
Nous sommes d'accord.
Vous aurez reconnu César et Rosalie pour découvrir la suite des souvenirs cinéma de Gérard Lanvin. Rendez-vous dans une demi-heure. Enfin, juste après, j'accueillerai mes collègues critiques pour débattre des films sortis en DVD, VOD ou sur vos plateformes. Aujourd'hui, on parlera de Terrible Jungle avec Catherine Deneuve et Vincent De Dienne qui arrivent sur OCS, de Judas and the Black Messiah qui vient de décrocher un Oscar et débarque sur MyCanal. On parlera aussi du film Les Mitchell versus les Machines sur Netflix et de Sans aucun remords sur Prime Vidéo. Mais d'abord donc, place à notre récit consacré à la multiplication des biopics musicaux sur grand écran.
Europe 1, le récit.
Si les biopics musicaux se sont multipliés ces dernières années, ce n'est pas pour autant un genre nouveau. Dès 1945, par exemple, sortait le film Rhapsody en bleu, consacré au compositeur George Gershwin, et plus particulièrement à sa relation avec la chanteuse Julie Adams.
I'm not good for you, Jones.
Don't you love me enough?
Maybe I love you too much.
Et bien que ce biopic soit assez fantaisiste, il permettait déjà aux spectateurs de découvrir la vie, quelque peu romancée, du célèbre pianiste, de le voir autrement, en somme, autrement que via ses compositions ou assis derrière son piano. C'est aussi le parti que va prendre Milos Forman avec Amadeus, sorti en 1984. Objectif, passionner le public avec un personnage dont on connaît au final très peu de choses, si ce n'est sa musique. Pour Mozart, typiquement, on sait que c'est un génie, très précoce, mais c'est à peu près tout. Milos Forman décide donc de permettre aux spectateurs de découvrir les secrets de sa vie, mais à travers les mémoires de son concurrent, le compositeur Salieri.
D'abord les voix, les basses.
Confutatis maledictis.
Maintenant l'orchestre, second basson, trombone, basse, avec les basses notes identiques, même rythme. Identique? Oui, bien sûr, les instruments doublant les voix. Maintenant, trompette et tympanie. Trompette en ré.
Écoutez-moi. Je ne comprends pas.
Écoutez! Tout cela est en harmonie.
Amadeus qui sera un immense succès critique et public. Le film remporte 8 Oscars et totalise près de 4 500 000 entrées en France. Écoutez Milos Forman qui en parlait au micro d'Europe 1.
On n'a pas fait une biographie. Hein. Si c'était biographie, ça, sûrement je n'étais pas intéressé. Non, c'est une histoire dramatique à soi-même. Et parce que c'est Mozart et Salieri, alors c'est Mozart et Salieri. Mmh. Moi, je ne connaissais pas beaucoup la musique de Mozart. Alors, j'ai voulu utiliser la musique d'une façon que moi, que je peux comprendre. Alors, n'importe qui avait mon connaissance de la musique assez médiocre pouvait le comprendre.
Alors on peut situer, dater la multiplication de ces biopics musicaux dans les années 70. On est en pleine période hippie, Woodstock, et ce nouveau mode de vie des artistes entre drogue, concerts et recherche d'inspiration fascine le public. C'est ce qui a d'ailleurs poussé Oliver Stone à réaliser The Doors, un biopic sur le célèbre groupe de rock et sur Jim Morrison, leur leader, mort prématurément à l'âge de 27 ans.
Fire!
sondage, combien d'entre vous savent qu'ils sont vivants? Conneries! Vous êtes des petits soldats en plastique dans une poussière de guerre miniature. Répondez! Combien d'entre vous savent qu'ils sont vivants? Combien savent qu'ils sont vraiment vivants?
Mais pour qu'un biopic musical fonctionne, il faut d'abord que le spectateur ait le sentiment de pénétrer dans la vie secrète de ces stars. Des vies souvent chaotiques, entre famille, drogue, tournée, femmes déchaînées. Autre grande morale de ces films, le succès ne rend pas heureux. Prenez Dalida par exemple, signée Elisa Azuelos, que nous recevrons tout à l'heure dans ce studio. On découvre dans le film une chanteuse malheureuse, en amour notamment.
Je comprends votre douleur, mais...
Mais quoi ? J'ai 34 ans. Pas d'amour, pas d'espoir, pas d'enfant, pas de...
Vous donnez de l'espoir à des milliers de gens.
Et moi, qui m'en donne ?
Alors c'est vrai que ces dernières années, je le disais, les biopics se sont multipliés sur nos écrans. Bohemian Rhapsody, par exemple, consacré au groupe Queen, Rocketman sur Elton John, Ray sur la vie de Ray Charles, avec des acteurs qui, à chaque fois ou presque, livrent une performance incroyable pour ressembler le plus possible aux stars qu'ils incarnent. Dans Bohemian Rhapsody, Rami Malek a dû prendre des cours de chant, de danse, de piano pendant des mois afin d'être parfaitement crédible en Freddie Mercury.
Bon, alors, peux-tu me dire pourquoi vous jouez pas de vos instruments ?
Je veux essayer de donner aux spectateurs une chanson qu'ils peuvent interpréter. D'accord ? Je veux qu'ils puissent participer au concert. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Imagine des milliers de personnes tapant à l'unisson. Hein ? Alors ? Et les paroles, c'est quoi ?
En France, rappelez-vous, Jérémy Régnier a interprété Claude François dans le film Clo-Clo. Il racontait sur Europe 1 comment il s'était glissé dans la peau du célèbre chanteur des années 60 et 70.
J'ai découvert, pour la préparation, réellement quel personnage c'était. Parce que j'avais une idée un peu fausse de Claude François, cette image qu'il nous a laissée derrière ce costume à paillettes, chanteur un peu ringard, je dirais. Et j'ai découvert un personnage beaucoup plus complexe, beaucoup plus intéressant, moderne. Parce que le mec avait tellement une énergie sur scène, il perdait 2 kilos par soir de show. Donc moi, je devais tenir toute une journée. Donc voilà, ouais. Régime, sport, énormément de sport, le chant forcément, la danse. J'ai été coaché, super bien coaché, mais je ne savais pas danser avant, non.
Et les exemples sont nombreux. C'est d'ailleurs pour ça que souvent, une interprétation dans un biopic musical vaut un Oscar de meilleur acteur ou actrice. Récemment, Rami Malek a décroché la statuette pour son rôle de Freddie Mercury, mais d'autres avant lui ont remporté la prestigieuse récompense. Jamie Foxx pour Ray sur la vie de Ray Charles, Joaquin Phoenix pour Walk the Line, biopic sur le chanteur de country Johnny Cash, Marion Cotillard aussi bien sûr, inoubliable en Edith Piaf. L'actrice raconte avoir eu recours à de l'exorcisme pour réussir à sortir du rôle une fois le tournage terminé. Elle était au micro d'Europe 1 juste après avoir reçu son Oscar.
J'ai eu le cœur qui battait très très fort avant que Forest Whitaker ouvre l'enveloppe. J'ai trouvé un mot, c'était peut-être submergé par plein de choses. C'est extraordinaire.
Il faut quand même dire que le biopic musical présente un avantage certain. Plus l'artiste qu'il raconte est connu, plus le film a de chances de marcher. Les producteurs peuvent compter sur une base de fans solide qui ira, à coup sûr, voir le film. L'autre avantage, c'est que très souvent, le succès du long-métrage relance les ventes de musique. D'ailleurs, les producteurs du film possèdent aussi souvent les droits sur l'œuvre. Certains biopics ont même été imaginés pour relancer les ventes de disques. Amy, par exemple, sur la chanteuse Amy Winehouse, a boosté, 10 ans après sa sortie, les ventes de son album « Back to Black ». Alors il faut aussi noter que malgré un succès populaire, le plus souvent ces films n'emballent pas la critique. L'une des raisons sans doute, c'est leur supposé manque d'originalité et une mécanique d'écriture qui semble souvent trop automatique. D'abord une enfance difficile, puis un premier concert qui fonctionne, qui permet de se faire repérer, puis le succès, puis la recherche de la liberté, et à la toute fin, un panneau noir sur l'écran avec quelques lignes de texte sur la façon dont l'artiste a fini sa vie. Alors oui, certains réalisateurs essaient de casser ce schéma. Todd Haynes, par exemple, avec I'm Not There dans ce biopic sur Bob Dylan, le chanteur est interprété par 6 acteurs différents tout au long du film, dont une femme, Kate Blanchett.
You're kidding me, Rick. I can't watch this. How does it feel?
Et pourtant, ce film n'a pas attiré les foules, mais il a au moins eu le mérite de dépoussiérer le genre. En France, Valérie Lemercier s'essaie même au faux biopic avec Aline, qui devait sortir, mais qui a été repoussé de quelques mois, inspiré de la vie de Céline Dion. On aura l'occasion d'en reparler. Il y a aussi Gus Van Sant, qui avec Last Days a choisi de se concentrer uniquement sur les derniers jours du chanteur de Nirvana, Kurt Cobain, avant son suicide à l'âge de 27 ans.
Nirvana est un groupe qui vient de Seattle, qui est une ville qui jusqu'à présent n'avait pas vraiment donné grand-chose sur le plan musical. Et ils ont été à l'origine de la vague qu'on appelait le grunge. C'était ce qui caractérisait Kurt Cobain. C'est à la fois le côté très violent et une indolence assez rigolote à regarder.
Et puis il y a ces biopics qui créent la surprise et nous font découvrir un artiste à côté duquel on était passé. Pas grand monde ne connaissait Sixto Rodriguez avant le documentaire Sugarman.
If ever there is an air of intrigue and mystery around a pop artist, it is around the artist known as Rodriguez.
Le film décrochera même l'Oscar du meilleur documentaire en 2013. Alors on attend maintenant des biopics, je vous le disais, sur Billie Holiday, sur Elvis Presley aussi, qui devrait sortir cet été, sur les Bee Gees, réalisé par Kenneth Branagh, ou encore un biopic sur Johnny Hallyday, avec Jalil Lesper derrière la caméra. Mais alors, comment on construit un biopic musical? Quels sont les écueils à éviter, les codes à appliquer? Pour en parler, je reçois dans un instant Lisa Azuelos, réalisatrice de Dalida. Mais d'abord, on va écouter, justement, j'en parlais il y a quelques secondes, Sugarman, signé Sixto Rodriguez. Vous êtes à l'écoute de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma sur Europe 1.
Sugarman, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugarman, met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal.
Et vous êtes toujours à l'écoute de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. On parle aujourd'hui des biopics musicaux. Et justement, pour poursuivre notre réflexion, je voulais accueillir Lisa Azuelos, réalisatrice notamment de Dalida. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Alors d'abord, question vaste, mais pourquoi et comment finalement on décide de réaliser un biopic musical? Est-ce que c'est dans votre cas parce que vous étiez fan de l'artiste en question? Qu'est-ce qui vous motive au départ?
Je pense qu'il y a plusieurs choses qui ont motivé ce choix. La première, c'est que vraiment... l'histoire de Dalida est une histoire intime de femme qui m'a énormément touchée, parce que c'est vraiment raconter un parcours de 1935 à 1987, et c'est vraiment une période très très dense dans l'histoire du monde aussi. Ça permettait de faire un biopic du monde en même temps, et du monde musical, qui est un monde que je connais bien à travers ma maman. Je pense que c'était une manière aussi de parler du showbiz que je connais bien à titre perso, mais surtout que j'ai vu moi enfant dans ces années-là avec ma mère. C'était une manière un peu détournée aussi, peut-être, de faire un film sur elle, mais pas sur elle. Donc voilà. Ensuite, c'est vraiment extraordinaire de faire un film épique. Quand on fait un biopic musical, c'est que forcément, on va mettre en scène de la comédie musicale. Moi, je suis venue au cinéma par la comédie musicale. J'allais au cinéma MacMahon quand j'habitais à Paris toutes les semaines ou deux fois par semaine pour voir Fred Astaire ou Gene Kelly ou toutes les comédies musicales. Donc savoir que je vais devoir mettre en scène des choses comme ça, c'était vraiment excitant. Et puis c'est des films énormes, quoi. Donc c'est génial à faire.
On n'a pas peur parfois d'être écrasé un peu par le poids du personnage. En l'occurrence, Dalida, c'est tellement un personnage public, connu, reconnu. Est-ce que parfois il n'y a pas cette petite appréhension de se dire je vais raconter la vie d'un personnage comme ça?
La vraie appréhension, vous avez raison, c'est qu'on m'a confié la vie de quelqu'un et je ne veux pas la trahir. Quand c'est ma vie à moi, je peux me trahir et ça ne me pose pas de problème. Quand c'est la vie des gens que je connais un peu et qui se reconnaissent un peu dans les films, c'est pas trop grave non plus, parce que personne les connaît. Là, en l'occurrence, c'est comme si on me confiait vraiment une vie dans un petit porcelaine très cassable et qu'il faut que je la transporte pendant 2 ans, pendant le temps où va se faire le film, et que je dois perdre ni une goutte d'eau, ni casser la porcelaine. Et ça, c'est vrai que ça, c'est un petit peu effrayant, mais en même temps, je suis rentrée en communication avec elle, au même titre que les acteurs qui jouent des rôles ressentent des choses. Bah là, en fait, la direction d'acteur et surtout l'écriture du scénario, on rentre complètement en connexion avec ce personnage. Ensuite, à l'ère d'Internet, c'est un peu moins dur, à mon avis, qu'avant, puisque j'avais vraiment à portée de main toutes ces interviews. Donc, je sais qui elle est au travers de ce qu'elle raconte. Et c'était passionnant, mais il y a aussi comme un travail de sorcière, de channeling, comme on dit, où tout à coup, j'entends des choses qu'elle me dit, où je suis connectée, je me dis, mais c'est comme ça qu'elle aurait réagi, ou je pouvais comprendre ce personnage-là. Et puis, la douleur aussi de pas être mère, puisque moi, je sais que si j'avais pas été maman, ça aurait été une énorme douleur pour moi. Donc voilà, en creux ou en plein, de toute façon, j'arrivais toujours à dessiner ses contours.
Et c'est en ça aussi que finalement ces biopics racontent beaucoup de choses au-delà de la vie des artistes, c'est sans doute aussi de nos vies personnelles.
C'est ça qui est intéressant, parce que si c'est juste raconter un personnage, c'est pas très intéressant. C'est de voir ce qui peut, dans un personnage public, finalement, catalyser tant d'émotions et tant de personnalités différentes.
C'est justement quand vous l'écrivez et quand vous préparez ce film, est-ce qu'il y a des écueils dans lesquels faut pas tomber? Est-ce qu'il y a des facilités? Parce que c'est vrai qu'on a l'image des biopics musicaux, souvent qui sont des films assez classiques dans la façon assez linéaire, parfois comme ça, dans l'ordre chronologique. Est-ce qu'il y a des choses et des pièges où vous êtes dit ça, faut vraiment pas que je tombe là-dedans?
J'avais justement pas envie de raconter une histoire linéaire. Je suis partie en fait du mot qu'elle a laissé avant de se suicider, qui est « pardonnez-moi, la vie m'est insupportable ». Et en fait, le but du film, c'est qu'on la pardonne. Je suis partie du principe que c'est elle qui me demandait de faire en sorte qu'on puisse pardonner à ce geste qui est insupportable pour tous les humains qui restent, en fait. Parce qu'on se dit « mais pourquoi j'ai pas été là pour elle ? Pourquoi ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire qui aurait pu faire qu'elle se suicide pas ?» Chaque suicide est un échec du collectif, en fait. Et voilà, et moi j'avais envie d'expliquer que c'était un choix de vie, que c'était aussi un destin, que c'était une machine infernale qui était en elle, qu'elle avait pas réussi à combattre, et peut-être aussi de donner des clés à d'autres personnes qui peuvent être atteintes de cette maladie, parce que c'est une maladie, le suicide, elle en parle beaucoup, et peut-être donner des clés pour dire, voilà, ça c'est des routes qui mènent peut-être à ça, il faut peut-être aller voir ailleurs, il y a peut-être des choses à combler avant, à comprendre. J'essaye de donner des pistes pour comprendre ce qui rend ça possible. Bref, voilà quoi.
Et pourquoi, selon vous, Lisa Azuelos, ces dernières années, on a l'impression que les biopics musicaux, il y en a de plus en plus? Est-ce que c'est parce que souvent, il faut bien le dire, ça marche bien dans les salles? Ou est-ce que c'est parce que voilà, il y a une attente du public de découvrir un peu le secret derrière ces personnages ou ces stars?
C'est un peu de tout. Je pense que pour faire des films, il faut des gens qui les financent. Donc, les gens qui les financent doivent penser que ça va probablement marcher. Et puis, les gens qui sont intéressés par ça, On fait pas un biopic par hasard, c'est parce qu'il y a quelque chose dans cette histoire-là qui résonne avec mon histoire à moi. Quand je dis mon histoire à moi, c'est l'histoire du metteur en scène ou l'histoire de l'actrice ou de l'acteur. Enfin, il y a quelque chose qui donne envie de porter cette voix-là un peu plus loin. Et les gens deviennent pas des stars par hasard. Quand ils sont des stars, c'est parce qu'ils catalysent en eux une personnalité qui représente toutes les personnalités du moment. Quoi.
Vous avez envie aujourd'hui de réaliser un autre biopic musical ? Vous avez une autre envie, une autre idée ?
Ah, j'en ai plein, bien sûr. Mais je viens de voir, malheureusement, que Steven Spielberg a fait un remake de West Side Story. Alors ça, déjà, c'est plus possible. Non, je voudrais faire un film sur une période de l'histoire qui est très méconnue, qui est... le moment où on a brûlé dans un stade en 1979, dans un stade de foot américain, tous les vinyles de disco. Ça s'appelait Disco Suck Party, ça veut dire le disco ça pue. Et ça a été vraiment un peu comme au temps des nazis où on brûlait des livres. Là, ils ont brûlé des vinyles pour dire qu'ils en avaient marre du disco, de cette musique qui laissait libre cours aux noirs et aux gays. Et c'était vraiment un truc ultra raciste. Et que personne a vraiment jamais connu. Du coup, ça me donnerait l'occasion de parler du disco en parlant d'un sujet de société assez impressionnant, en fait.
Et c'est un projet sur les rails ?
Pas du tout.
D'accord, c'est une envie.
Voilà, si ça intéresse un producteur qui est en train d'écouter,
voilà.
Il sait où me joindre.
J'espère qu'on vous portera chance. Merci beaucoup, en tout cas, Lisa Azuelos, d'avoir fait un petit détour par le studio de Clap aujourd'hui pour parler justement de ces biopics musicaux. Et notamment de Dalida, qu'on peut voir ou revoir évidemment en DVD, VOD. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, à bientôt.
Et nous on se retrouve dans un instant pour la suite de l'émission et pour notre questionnaire Les films de ma vie. Aujourd'hui c'est Gérard Lanvin qui a accepté de partager avec nous ses souvenirs cinéma. À tout de suite.
Europe 1.
Et vous êtes toujours à l'écoute de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Je suis très heureux d'être maintenant en compagnie de Gérard Lanvin. Bonjour.
Bonjour.
Ça va bien ?
Ah oui, tout à fait.
Bon, c'est l'essentiel. Gérard Lanvin, à l'occasion de la sortie du film Envole-moi, dès que les salles rouvriront, maintenant on va pas se risquer à donner une date de réouverture.
Non, c'est pas la peine.
qui est un feel-good movie, voilà, on en reparlera dans l'émission en temps voulu, mais qui est vraiment ce genre de film dont on ressort avec le sourire et qui font du bien, notamment cette période un petit peu particulière.
Mm-hmm.
Bon, nous on va faire notre questionnaire, est-ce que vous êtes prêts ?
Allez, on y va.
Votre premier souvenir de cinéma ?
C'est Fra Diavolo. Fra Diavolo avec Laurel et Hardy. J'ai vu ça avec mon père qui m'a amené sur les Champs-Élysées et on a été voir Fra Diavolo.
Qu'est-ce que tu fais là ? Je joue à Nounou Néné Nono. Nounou Néné Nono. Essaye voir. Je ne veux pas essayer. Tout le monde peut en faire autant.
J'ai quelques images, mais alors c'est difficile à expliquer parce que c'est une image où Hardy faisait un truc avec ses mains là, et ses doigts. Il nous montrait la manière de faire bouger les doigts d'une certaine façon. Ça m'a toujours marqué. Après, je ne faisais que ça avec mes mains. Mais Fra Diavolo, j'ai pas de souvenir particulier d'un moment. C'est l'histoire de rentrer dans un cinéma et de voir ce couple de comiques qui me ravissait, moi.
Et ça vous a sans doute un peu donné envie de faire du cinéma, même si c'est
non,
dur.
Non, j'ai jamais pensé à faire du cinéma, moi. C'est la vie qui m'a... C'est les circonstances qui ont fait la chose. Mais jamais je me suis autorisé à penser à ça. En tout cas, c'était la première fois où je voyais sur un écran géant, parce que c'était déjà à l'époque les cinémas de quartier, mais là c'était aux Champs-Élysées. C'était un spectacle énorme pour moi.
Recommence voir.
Votre meilleur souvenir en salle ?
Mon meilleur souvenir en salle, je pense que j'ai vu Le Parrain. Ah. Et là, ça m'a tué, quoi. Là, j'ai pris une leçon. Bien que j'étais déjà très fan de De Niro depuis Mean Street. Là, quand j'ai vu Le Parrain, quand j'ai vu j'ai vu les trois, hein, donc forcément.
Les trois en salle.
Non, pas les trois en salle, mais quand j'ai vu Marlon Brando dans ce costard-là, j'ai kiffé quoi. J'ai kiffé l'époque. De toute façon, tous ces films sur l'époque, sur la prohibition, tout ça, m'ont toujours marqué quoi. Ça, après, j'ai été très client de tout ce genre et de tous ces films-là.
Ce que je veux, ce qui est le plus important pour moi, c'est d'avoir des garanties. Je ne veux plus jamais qu'on attente à la vie de mon père.
La seule garantie que j'ai à t'offrir, c'est moi. C'est moi qui suis menacé. J'ai raté mon coup. Tu me fais trop d'honneur, Mike. Je suis pas aussi malin que tu le penses. Tout ce que je demande, c'est une trêve.
Il faut que j'aille aux toilettes. Vous permettez ?
Quand faut y aller, faut y aller.
Le film dans lequel vous aimeriez vivre ?
César et Rosalie.
Ah !
Ouais. C'est pour moi un film de référence. J'ai trouvé un Yves Montand magique dedans. Ce qui n'était pas à chaque fois au départ. Mais là, Yves Montand m'a donné une leçon. J'ai adoré son personnage. Samy Frey et puis évidemment Romy Schneider, qui était un idéal féminin à l'époque.
Non mais franchement, qu'est-ce que tu lui trouves, hein? Il est beau, c'est ça? Moi aussi je suis beau dans mon genre. Et puis la beauté, hein, c'est toi qui le dis.
Ça ne veut rien dire.
Nous sommes d'accord. Alors, intelligent? C'est pas Marcel Proust, excuse-moi.
Je t'excuse.
Bon, de toute façon, je ne saurai jamais la vérité, alors.
Mais César, la vérité, tu la sais, tu la vois. On est ensemble. Si je voulais être avec lui, j'y serais, je suis libre.
De toute façon, les films de Sautet, en général, sont des films que je revois facilement parce qu'ils nous parlent de nous et on n'a pas tellement, finalement, changé les caractères.
C'est ce que j'allais dire, ils sont toujours autant d'actualité d'époque.
Voilà, les tempéraments sont toujours là. Bien que les époques aient changé, les tempéraments restent les mêmes quand même.
Est-ce qu'il y a un chef-d'œuvre que vous détestez ?
Il doit y en avoir quelques-uns, sûrement, mais je n'ai pas les titres en tête. Tous les films un peu intello, un peu casse-couille, finalement, je les déteste. Ils m'emmènent pas loin, quoi. J'ai vu des films, ce film-là sur l'homosexualité féminine, hein, qui avait été récompensé à Cannes, tout ça. On m'en avait fait toute une histoire. Quand je l'ai vu, j'étais pas...
Portrait de la jeune fille en feu ?
Non, non, non.
La vie d'Adèle ?
Peut-être, oui, un truc comme ça.
Le film de Kechiche qui...
Ouais, c'est ça, ouais, c'est un peu, bon, on m'en a fait un film absolu, ouais, enfin, faut voir.
C'est qui ce mec ?
Qui ?
Tu crois que je vous ai pas vu, là ?
Ouais, mais il bosse avec moi, je t'assure, tu pourras venir avec moi si tu veux, c'est vraiment un collègue, il s'occupe de l'autre classe.
Arrête de me prendre pour une conne, Adèle, et dis-moi, ça fait combien de temps que tu couches avec lui ? Hein ? Pourquoi tu mens ?
Je mens pas.
Alors pourquoi tu pleures ?
Je pleure pas.
La plus belle scène de cinéma, selon vous ?
C'est l'affaire Thomas Crown. Les deux, là, quand ils s'embrassent, après la partie d'échecs, ça fait très mal. De toute façon, je suis un inconditionnel de Faye Dunaway et puis aussi de...
Steve McQueen.
Ben oui, voilà, Steve McQueen.
Une partie.
Je suis prête.
Donc, en fait, cette scène très érotique, ce baiser, enfin, ces deux tempéraments qui s'associent, même les tours en buggy sur la plage, Steve McQueen, Faye Dunaway, reste un moment où tu as envie d'être là, présent, dans la même pièce.
Quel est le film qui vous a fait le plus rire ?
Oh là ! C'est compliqué parce qu'il faut retourner loin. Mais enfin, Les Bronzés, de toute façon, sont des films références pour moi. Ils m'ont fait, à l'époque, c'est sûr que le premier Bronzé, t'y restes, quoi. C'est trop bien. Les caractères, les acteurs qui sont dedans ont tous une identité à jouer qui est à la limite de l'absurde. Et c'est très drôle et très bien écrit.
Mademoiselle, s'il vous plaît.
Oui, madame.
Qu'est-ce que c'est que la crêpe chichi ?
Eh bien, la crêpe chichi, c'est une fine couche de sarrasin saisie dessus-dessous et parsemée de pétales de rose tiède. C'est délicieux.
Ah oui, certainement. Je vais vous prendre une crêpe au sucre avec une bière.
Ah non, 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 je m'excuse, monsieur. Nous ne faisons pas cela ici, vous êtes trompé d'établissement. Vous avez toutes nos crêpes sur la carte.
Vous avez de la pâte ? Vous avez du sucre ? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus.
Et le film qui vous a fait le plus pleurer ?
J'avoue que je pleure facilement, moi, hein, quand je vois des trucs émouvants au cinéma. Et j'avoue que dans Vole-moi, le film dont on parle, là, j'ai pleuré.
Moi aussi.
Donc, disons, le dernier film qui m'a fait pleurer, c'est Vole-moi.
Quand vous l'avez vu fini
Quand je l'ai vu fini, et tout seul en plus, dans une salle pâtée. Franchement, j'ai été ému jusqu'à en pleurer parfois. Ouais.
J'ai rencontré quelqu'un d'important. Il est né avec une malformation cardiaque. J'ai besoin de quelqu'un pour l'aider à vivre d'autres choses.
Tu veux que je te cherche quelqu'un ?
Non, je ne cherche pas. J'ai trouvé.
Je suis pas du tout fait pour ça, moi.
Coucou.
Franchement, je trouve que t'as vachement l'air en forme pour un handicapé. Hein.
Bon, moi, je trouve que t'as l'air bien crevé pour un mec en pleine forme.
Et c'est quoi votre expérience avec les enfants ?
Bah, j'en étais un, et puis je le suis toujours. Ça me fait 25 ans d'expérience.
J'adorerais avoir une vie normale.
Oh, 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 oh,
Votre séance de cinéma la plus dingue, Gérard Lanvin?
Ma séance de cinéma la plus dingue, je pense que c'est d'être allé voir en salle le film de Michel Blanc, Marche à l'ombre, et de voir à quel point les gens réagissaient et étaient heureux et la queue aussi dehors pour les spécialistes. Ça, c'est une année complète pour toi, dans la mesure où tu es dans les deux films et que ça fait des cartons énormes.
Mais c'est un peu son année, quoi.
C'est un peu son année.
Il dirait, toi, tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, quand toi, tu pues. Et marche à l'ombre. Qu'est-ce qui vous prend?
Ta gueule.
Arrêtez, j'ai rien fait, vous êtes fous.
Faut pas jouer ici, c'est privé. Super, ta guitare.
Non, soyez sympa, elle est pas à moi.
Maintenant, écoute, la prochaine fois qu'on te croise dans le métro, c'est pas la guitare qu'on éclate, c'est ta gueule. T'as compris?
Quel est le film que vous conseilleriez à votre meilleur ami?
Je pense que ça serait intéressant qu'il regarde Voyage au bout de l'enfer, par exemple.
Pourquoi?
Pour l'écriture, pour la mise en scène, pour l'interprétation, il y a tout là-dedans. Voyage au bout de l'enfer reste un film référence pour moi.
On attend que Michael soit là.
Ça, c'est lui. C'est Michael. Attention.
Tiens, viens.
Non, restez bien tous là. Sortez pas. Moi, je vais le chercher. Je vais le chercher.
Allez, tout le monde,
restez là.
Un triple banc pour le retour d'Abraham. Et Pépé.
Hourra.
Et Pépé.
Hourra.
Le taxi s'est pas arrêté.
Ah, comment ça se fait, ça?
Je me demande pourquoi il s'est pas arrêté.
Alors, c'était pour lui. Hein.
Peut-être que son avion a un peu de retard. Et puis calme-toi, Axel, tu nous rends nerveux.
Et à votre pire ennemi, vous lui conseilleriez quoi?
Mon pire ennemi, je lui conseillerais... Alors attends, faut que je cherche pour un film de Godard ou un truc comme ça, quoi. Ouais, un truc casse-couille qui m'intéresse pas du tout.
Y a aucun Godard qui...
Non, pas, vraiment pas. Je suis pas client.
Et pour finir, Gérard Lanvin, la bande originale qui a le plus marqué votre vie?
Je pense que c'est... La grande symphonie, là, dans Apocalypse Now.
Ah.
Ouais. Quand les hélicoptères arrivent et tout, cette image avec cette musique, c'est impressionnant. Quand tu le prends au cinémascope, tu l'as dans la tête, le truc. Ouais. Ça reste, cette symphonie reste à jamais avec ces images, si tu veux. Ça s'associe, quoi.
Merci beaucoup Gérard Lanvin d'avoir joué le jeu.
Merci à vous.
À l'affiche donc d'Envole-moi dans les salles dès que ça rouvre.
Voilà, dès que ça rouvre
et on attend ça.
Ça avec... sort quand dès que ça rouvre.
Ouais, c'est ça. Merci en tout cas d'être venu dans Clap. Nous les amis, on se retrouve dans un tout petit instant, le temps d'accueillir mes collègues critiques et on va débattre des films qui sortent en VOD, DVD ou sur vos plateformes.
Clap. Mathieu Charrier fait son cinéma sur Europe 1.
Clap, dernière partie, place à nos critiques des films sortis en DVD, VOD et sur vos plateformes. Pour débattre aujourd'hui, j'accueille avec plaisir Marilyn Letertre de Madame Figaro et Fabrice Leclerc de Paris Match. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour Mathieu, ça va bien?
Mais oui, ravi de vous retrouver.
Mais oui, nous aussi.
En plus, on a un beau programme. On va parler du film d'animation Les Mitchell versus Les Machines qui arrive sur Netflix. Deux terribles jungles, c'est sur OCS avec notamment Catherine Deneuve et Vincent Dedienne. On débattra aussi du testostéroné, c'est le moins qu'on puisse dire, sans aucun remords sur Prime Video. Et du tout juste oscarisé, Judas and the Black Messiah sur My Canal.
Testostéroné aussi.
Un petit peu, aussi. Mais moins quand même. On commence donc avec Les Mitchell contre les machines, c'est un film d'animation qui arrive sur Netflix.
Lançons l'opération.
Les derniers humains doivent être par ici, quelque part.
On est les Mitchell. Il n'y a que nous qui puissions sauver le monde. Je suis trop désolée pour vous.
Message à tous les robots. Capturez absolument tous les habitants de cette planète.
Courage !
Et voilà, vous avez compris. C'est donc un film d'animation qui devait d'ailleurs sortir en salle sous le titre Déconnecté. Il débarque sur Netflix. Phil Lord, Chris Miller à la production. Lord doit tempête de boulettes géantes. Spider-Man New Generation. Et donc, on suit les Mitchell. C'est cette famille que vous entendiez, famille américaine assez caricaturale. Vous avez la fille qui filme son chien déguisé pour mettre les vidéos sur YouTube. Le fils passionné de dinosaures, un peu étrange, il faut bien le dire. Et les deux parents complètement dépassés et qui décident d'accompagner leur fille lorsqu'elle doit partir à l'université, de l'accompagner dans une sorte de road trip. Sauf que, vous avez entendu, ils vont devoir affronter des robots guidés par une sorte d'intelligence artificielle et qui doivent enlever tous les humains. Est-ce que les Mitchell vont sauver les humains ? C'est toute la question. Marilyn Le Tertre.
Je ne sais pas s'ils vont sauver les humains, mais en tout cas, moi, ils m'ont beaucoup amusée.
Ça
il y a très,
pas.
Très, très longtemps que je ne m'étais pas marrée à ce point devant un film d'animation. Je ne sais pas à quoi carburent les scénaristes et les réals, mais visiblement, ça a l'air assez costaud.
Vous voulez la même chose ?
J'avais pas besoin, je crois que je suis naturellement survoltée. C'est donc survoltée, c'est complètement barré. Ça nous interroge évidemment sur nos rapports aux écrans, aux réseaux sociaux, voilà. Mais sans morale, parce qu'à la fois, ça évoque bien tous les travers, mais aussi tous les avantages que ça peut comporter. Et surtout, ça va à 100 à l'heure, la mise en scène est géniale. Il y a plein de références pour les enfants aussi, sur ce qu'ils aiment aujourd'hui, les petites vidéos YouTube avec les chats, enfin, ce genre de petites choses. Et moi, je me suis vraiment beaucoup amusée. Voilà, j'ai passé un excellent moment.
Vous aimez les vidéos avec les chats aussi, en
oui. J'adore les vidéos
Fabrice
avec les chats.
Fabrice, les Mitchell contre les machines.
Ouais, écoutez, j'adore aussi.
Bon.
Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un film comme ça, on est chez Tex Avery, ouais. On est un peu chez les Marx Brothers par moment. C'est de l'animation qui fait parfois de l'image réelle, ce que je trouve absolument génial. C'est vrai qu'il y a... Et je me disais en voyant le film, c'est intéressant comme on voit Pixar en ce moment, qui reste excellent dans un niveau de haute qualité, mais qui est dans une certaine norme. Mm-hmm. Et là, même au niveau de l'animation, de l'image, du ouais. discours, ça part quand même dans tous les sens. Hein. C'est parfois assez hard d'ailleurs. Voilà, je trouve que l'inventivité, la vivacité, le renouveau du cinéma d'animation jeune, speedé et très très drôle, eh ben c'est là qu'on le trouve, c'est chez Sony qu'on le trouve. Et après Spider-Man, bon, il y a Phil Lord et Miller qui sont
oui,
derrière. Et après
faire.
Spider-Man, on sait qu'ils savent faire. Mm-hmm. C'est vraiment une super bonne surprise. Peut-être un chouïa long, 1h54 pour un film d'animation, ça se répète un peu par moment. Mais vraiment, quel pied, excusez-moi.
Ouais, et le dessin aussi est super
le
original.
Le dessin est superbe.
C'est,
ah, oui.
On voit pas ça partout.
On est loin
c'est
d'animation
absolument.
Un peu standardisé ouais. Pixar. Ouais.
Et ben voilà, les Mitchell contre les machines. C'est sur Netflix. Malheureusement, ça devait sortir en salle. C'est sur Netflix directement. Je vais casser un peu l'ambiance, je sens, avec Terrible Jungle. Pourtant, au casting prestigieux, Vincent Dedienne, Catherine Deneuve et Jonathan Cohen, ça arrive sur OCS.
Alors, je suis anthropologue. Ça consiste simplement à aller à la rencontre de l'autre et à l'observer.
Alors, votre fils a disparu. Et vous dites qu'il est chez les...
Autopies.
Les Autopies. Donc, vous savez où il est.
Nous allons monter une petite expédition dans la jungle.
Chef, dites quelque chose.
Ah, ça ne me fait pas plus plaisir qu'à vous, les gars.
Ouais.
Nous sommes à la recherche de ce jeune homme.
C'est pas du tout Elliot, ça.
C'est qui, ça, alors? Vous n'avez pas vu quelqu'un qui ressemblait pas à ça?
Voilà, Vincent Dedienne, qui est donc un jeune anthropologue, qui part dans la jungle amazonienne à la rencontre, vous l'avez entendu, du peuple Autopie. Et il va tomber sur une tribu un peu étrange, c'est le moins qu'on puisse dire, menée par Alice Belaïdi. Il va disparaître, sa mère, étouffante, jouée par Catherine Deneuve, va donc partir à sa recherche, aidée, enfin c'est ce qu'elle espérait en tout cas, par un gendarme complètement baltringue qui est joué par Jonathan Cohen et qui se trompe notamment au début, vous l'avez entendu dans l'extrait, de photo. Fabrice Leclerc, Terrible Jungle, on l'avait découvert, je me rappelle, à l'Alpe d'Huez il y a quelques temps maintenant.
Très bonne idée, souvent mal exploitée. Je pense que Catherine Deneuve doit arrêter de tourner dans les films parce qu'elle est Catherine Deneuve. On dirait quasiment une pub pour Le Bon Coin. Non, elle n'a rien à faire là. Enfin, elle ne sert à rien. Voilà, c'est juste un gimmick pour dire qu'il y a Catherine Deneuve dans un film. Après, moi, j'aime beaucoup Vincent Dedienne. Je trouve qu'il est pétri de talent et qu'il résiste sur tout le film à ce personnage assez herbie. En plus, qu'il va partir dans un délire assez incontrôlé. Jonathan Cohen, pareil. Mais c'est vrai que le film arrive 1 an et demi après, donc on a vu la flamme depuis Jonathan Cohen est devenu une star. Vincent Dedienne a continué à monter. Donc voilà, le film n'est plus perçu de la même façon. Après, moi, je trouve qu'il y a une envie de faire de l'humour très décalé, un peu hard, un peu...
Il y a quelques moments drôles.
Il y a des moments très drôles. Mais l'écriture ne suit pas sur la longueur. Voilà. Et ça part dans le grand n'importe quoi. Et là, pour le coup, dans les substances illicites, je donne la parole.
À Marilyn, la transition est toute trouvée. Terrible voilà. Jungle.
Vous qui êtes spécialiste, dites-nous.
Absolument, j'ai dit que je n'avais pas besoin, moi. La tisane me suffit. Écoutez, alors moi j'ai trouvé que ça démarrait plutôt bien. Ouais. Je trouve que la première partie fonctionne. Et puis très vite, comme le disait Fabrice, ça s'étiole et on s'ennuie. On s'ennuie parce que c'est les mêmes gags. Parce que moi aussi, j'aime bien Jonathan Cohen, mais il faudrait qu'il arrête de faire tout le temps le même rôle. Le rôle de baltringue, d'abruti qui se prend au sérieux, il le fait très bien, c'est sûr. Mais il ne fait que ça à longueur de film. Et moi, au bout d'un moment, ça me gave. J'ai envie de voir quelqu'un d'autre le faire ou lui, de le voir jouer autre chose. En revanche, je suis d'accord aussi avec Fabrice. Je trouve que, heureusement qu'il y a Vincent de Dienne, ouais, qui est bourré de talent, qui, à mon avis, ne va faire que monter au cinéma et qui, clairement, tient le film jusqu'au bout. Enfin, c'est lui qui fait qu'on a envie de tenir un petit peu. Mais franchement, c'est très inégal et il y a quelques moments drôles, mais dans l'ensemble, on s'ennuie.
C'est dommage, il y avait une vraie volonté de faire quelque chose de différent. Hein, mais bon, voilà, c'est pas totalement ça.
Terrible Jungle que vous retrouvez donc sur OCS. On change encore d'ambiance, on part sur Prime Video et cette fois, c'est un film qui s'appelle Sans aucun remords. Ça veut tout dire avec Michael B. Jordan.
Voilà ce qu'on sait. L'adjudant-chef Kelly est le troisième membre à avoir été attaqué. Les trois tireurs sont morts. Sa femme a été également tuée.
Ils n'ont plus qu'à espérer qu'ils ne survivent pas.
Pourquoi ?
C'est de loin l'homme le plus dangereux et le plus efficace qu'on ait sur le terrain.
Et voilà, sauf qu'évidemment, vous imaginez bien...
La bande-annonce est une caricature.
Elle dit tout, vous imaginez bien qu'il va survivre, ce marine des forces spéciales américaines. Il a été attaqué chez lui, il a tué trois hommes surarmés, mais il a quand même été blessé. Sa femme a été abattue, mais il va donc survivre et vouloir se venger tout en découvrant une grande conspiration internationale. Marilyn ?
C'est magique. Que dire ? Que dire donc ? En fait, tout est dit dans la bande-annonce.
Oui, mais attention, tout
donc,
est dit, on sait à quoi s'attendre.
Dit,
mais
rien n'est dit.
Mais il y a un public pour ces films-là.
Il y a certains publics, mais il y a d'autres films qui sont beaucoup mieux faits dans le genre.
Oui.
Je trouve que les scènes d'action sont assez mollassonnes, se répètent. Michael B. Jordan, alors oui, il est sexy, on l'aime bien, mais il est charismatique, le garçon, donc il faudrait qu'il choisisse des films où il peut exploiter ce charisme. Parce que là, c'est la cata. Et en termes de dialogue, mais mon Dieu, que c'est pauvre.
Vous l'avez regardé en VF ou en VO ?
Je ne l'ai eu qu'en VF.
Ah, voilà.
Donc j'ai dû le regarder en VF.
On va en reparler d'ailleurs.
Hélas, voilà. J'aurais préféré le voir en VO, en effet, mais soyons totalement honnêtes, je ne crois pas que ça aurait changé grand-chose. Le scénario est ce qu'il est. Et puis alors, donc ils ont mis une nana, hein, évidemment, qui est un peu la leaduse du groupe de militaires, là, parce que c'est bien de mettre une nana. Ouais, mais c'est bien, mais n'en faites pas un accessoire, sinon ça sert à rien. Donc non, moi j'ai trouvé ça...
Ou un garçon manqué, en l'occurrence.
Alors, un garçon manqué et un accessoire. Parce que quand même, sur le terrain, c'est lui qui lui dit « Hé, suis-moi, parce que c'est quand même moi qui vais te sauver les fesses.
Oui. »
Donc voilà, non, je trouve ça très problématique, très, très pénible, et je me suis beaucoup ennuyée.
Bon, ben voilà.
Même sous drogue.
Fabrice.
Même sans drogue, même sous drogue,
défendez
même
un petit peu sans aucun remords.
Je ne vais pas le défendre, pourquoi ? Parce que, alors, à l'inverse de Marilyn, moi, Michael B. Jordan, je le trouve assez incolore et inodore dans ce film-là, en version d'une courgette qui joue un militaire américain. Je suis content de revoir Jamie Bell. Je suis absolument terrifié par la version française qui a été faite. On dirait un saut brésilien. Il faut savoir que quand on fait une synchronisation en français, les lèvres doivent correspondre à ce qu'on dit. Enfin, c'est un peu la base, je pense.
C'est l'idée.
Après, voilà, c'est gros comme une maison. C'est quand même adapté de Jack Clancy. C'est le premier film en tant que producteur de Michael...
De Tom Clancy.
Non,
du roman
c'est
Tom
le
Clancy,
ouais. Premier film en tant que producteur de Michael B. Jordan. Donc, il
choisit
croit
bien.
Vraiment. Voilà, on sait qui est le traître au bout de 10 minutes, un quart d'heure, parce qu'on a compris, c'est gros comme une maison.
De toute façon, ils l'ont casté pour ça.
Il y a un public pour ça. En revanche, seule chose, je trouve que la mise en scène, et moi je ne suis pas du tout d'accord avec Marilyn, j'ai été absolument bluffé par cette mise en scène qui est faite par un réalisateur italien qui avait fait la série Gomorra. Et je trouve que c'est honteusement bien troussé, terriblement
alors,
mal écrit, mais honteusement bien troussé.
Je trouve qu'on n'y voit rien du tout, que c'est illisible.
On ne perd pas de temps.
Il y a quand même quelques scènes brillantes.
Sans aucun remords sur Prime Video, on ne perd pas de temps parce que je veux absolument qu'on parle du tout fraîchement oscarisé Judas and the Black Messiah qui arrive sur MyCanal, signé Chaka King.
Vous allez prendre 18 mois pour vol de voiture et 5 ans pour usurpation d'identité d'un agent fédéral. Sauf si je vous laisse repartir.
Vous tuerez peut-être un libérateur, vous ne tuerez pas la libération. Vous tuerez peut-être un révolutionnaire, vous ne tuerez pas la révolution. Et vous tuerez peut-être un combattant de la liberté, mais vous ne tuerez jamais ce combat.
Voilà pour ce film qui a donc offert à Daniel Kaluuya l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. On l'avait découvert dans Get Out. Alors, il joue Fred Hampton, le leader des Black Panthers, qui va finir, vous le savez, assassiné par la police en 1969. Sauf que l'angle choisi, vous l'avez peut-être compris en écoutant l'extrait, c'est de mettre finalement ce destin en parallèle avec le regard d'un autre homme noir qui va infiltrer les Black Panthers, qui va être contraint d'infiltrer les Black Panthers, policier au FBI, c'est une histoire vraie. C'est cet homme qui va permettre l'assassinat d'Hampton et il va se suicider, je crois, une vingtaine d'années plus tard. Fabrice.
C'est un film très intéressant parce que ça montre l'histoire politique cachée de l'Amérique, c'est-à-dire cette folie du FBI qui a été une réalité pendant des dizaines et des dizaines d'années sous Hoover. Et là, on voit comment le FBI essaye d'essayer de contrôler les Black Panthers. Ils n'y arriveront pas vraiment, mais ils croyaient encore à cette époque-là. Et c'est politiquement et socialement là-dessus, et car c'est aussi un polar, et c'est ce qui est très intéressant, que c'est aussi un polar. Le film est très intéressant. Après, moi, j'ai regardé le film avec intérêt. Le film est extrêmement bien joué, bien écrit. Je suis tout à fait d'accord. J'ai juste quelque chose, mais qui est quelque chose de factuel, c'est que au fur et à mesure, entre le The Trial of Chicago 7, Mia Rainey, j'ai l'impression qu'Hollywood est en train de me servir chaque semaine un pan de l'histoire noire américaine, parce qu'il faut être inclusif aujourd'hui et il faut représenter les minorités. C'est très intéressant. Je suis un peu, voilà, je trouve que c'est un peu trop.
Petite overdose.
Le film, voilà, le film arrive en dernier. C'est quand même un très beau film à voir.
Marilyn, Judas and the Black Messiah.
Je suis complètement d'accord avec Fabrice.
Mais comme d'habitude,
voilà. Aujourd'hui...
Comme quasiment, voilà, toujours. non, mais voilà, j'ai aussi l'impression de l'avoir vu 150 fois. C'est très intéressant, c'est très bien produit, c'est très bien joué. Mais en même temps, on me raconte la même histoire, effectivement, pour les raisons qu'a évoqué Fabrice depuis un an. Et elle est très intéressante. Mais encore faut-il savoir aussi diversifier son offre quand on fait du cinéma. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il ne sortira pas en salle chez nous. C'est qu'il y a eu beaucoup de films avant. Enfin, je ne sais pas quelle est la raison, mais parce que là, il est directement sur Canal+.
Ma Canal directement, avec leur acheté les droits.
Mais voilà, après, effectivement, c'est un film qu'on regarde avec intérêt et plaisir. C'est pas du tout un biopic, voilà. C'est ce qu'il faut dire aux gens, parce que déjà, le garçon est mort à 20 ans, donc c'est pas un biopic, parce que la vie a été courte. C'est plutôt un film d'infiltration, avec toutes les étapes du genre.
C'est intelligent.
Et voilà, et ça, en ça, c'est, l'angle est bien choisi. Et c'est bien fait, voilà, c'est bien fait. C'est un bon film.
Mais il y a d'autres films qui arrivent, hein, comme ça, et en salle, un film sur Billie Holiday, notamment, qui raconte encore une nouvelle fois la
même
chose.
Et une histoire d'infiltration aussi, d'ailleurs.
Et une histoire d'infiltration, voilà.
Qui s'appelle Billie Holiday, une affaire d'État. On a beaucoup parlé de Billie Holiday en tout début d'émission, parce qu'on parlait des biopics musicaux. Autant dire que la boucle est bouclée. Merci beaucoup Fabrice Leclerc, merci beaucoup Marilyn Letertre. On a parlé de Judas de Black Messias et sur MyCanal, de Sans Aucun Remords sur Prime Video, de Terrible Jungle sur OCS et des Mitchell contre les machines sur Netflix. Bientôt, nous reparlerons des films qui sortent en salle, puisque ça y est les amis,
et oui,
on sait que les salles
enfin
vont ouvrir le 19 mai. Merci beaucoup d'être venu une nouvelle fois dans le studio de Clap, émission réalisée par Nicolas Baudin, préparée par Marjorie Adelson, émission que vous retrouvez évidemment en podcast. Et pour la diffusion en direct, rendez-vous 14h-15h tous les samedis sur Europe 1. Europe 1.